Yann Morvan, l'artiste. Par Jean-Louis Vinet. Quatrième partie. Alors on va parler de quelque chose qui est fondamental, quoi, plus pour toi peut-être que pour d'autres photographes, qui sont les archives. Les archives, c'est-à-dire qu'on l'entend bien, on l'entend depuis qu'on discute ensemble, les livres pleuvent, donc les livres, il faut des traces là encore, il faut les images. Tu as été photojournaliste, tu es photographe, artiste,
oui, tout, oui.
T'es auteur. Donc les archives pour toi sont absolument fondamentales. Or aujourd'hui on est dans une époque où l'archive est fragile.
D'abord, j'ai toujours voulu conserver mes négatifs. J'ai pas mal de négatifs qui ont disparu. Mmh. Une partie de mon travail entre mi-75 et mi-76, puisque je travaillais pour l'agence Norma, et ces archives avaient été confiées à un photographe, c'était un ami, que je voyais régulièrement ces dernières années, qui est décédé l'année dernière, je ne citerai pas son nom, et qui a brûlé toutes les archives de l'agence Norma dans un moment de folie. Donc ça, j'ai perdu ça. Sinon, j'ai toujours, tous mes films, j'ai toujours conservé. J'ai toujours refusé le salariat pour donner mes images, etc. Je pensais que c'était un patrimoine. Bon, au début, est-ce que tu ne sais pas qui va continuer à être photographe, est-ce que tes images ont de la valeur ou pas, mais c'était quelque chose qui était fondamental pour moi. Alors, depuis 7-8 ans, grâce aux ouvrages, ça me permet d'avoir des scans de très haute définition, de formidable qualité. Et donc aujourd'hui, j'ai plusieurs milliers d'images, mes archives depuis les années 75.
Mais tes archives depuis 75, il faut les conserver.
Oui, elles sont assez bien conservées. Hein. Le problème, si tu veux, par exemple, les années 70, je commence à voir la maladie.
Il y a l'histoire de l'incendie, il y a le risque, non. Il y a le.
Si c'est bien
au
sec, dans des papiers sans acide, etc., tu les fais durer. Hier, j'ai scanné des films de 75 et ils étaient en parfait état. S'ils ont été bien développés, bien fixés, il n'y a pas de problème. Il y a un truc, il y a la maladie du vinaigre sur des Kodak qui attaque. Donc j'ai eu pas mal de films attaqués, mais ça se récupère avec de bons scans, avec de l'huile, avec des choses comme ça. On peut encore sortir. Je ne pense pas que ça durera une éternité. Mais cela étant, moi, je ne sais pas si tu vois là-bas, il y a un RED 5 qui est allumé. Donc, j'ai des tous mes fichiers sont des super scans vraiment de très haute qualité qui sont conservés sur un serveur.
Parce que ça, c'est une sorte de soin.
C'est du travail et de l'argent.
Il y a, ouais. De support. Puis de sécurité.
Ouais, il faut compter qu'un très bon scan, ça vaut entre 50 et 80 euros. Moi, j'en ai plusieurs milliers. Donc, tu peux imaginer. Alors, ça, c'est effectivement.
Et là aussi, le scan, tu parles de ça, mais il faut connaître des scanners très spécifiques.
J'ai bouffé. Tu peux pas t'imaginer le nombre de scans que je connais, rotatifs, à plat, etc. Tu me dis. Topaz, tu me dis Heidelberg, tu me dis. Je sais exactement à quoi. Pas tous, mais une grande partie, je sais leur qualité, leurs défauts, etc. Des scans. Et je veux dire, aujourd'hui, en France, il y a très peu de gens qui savent faire des scans. Parce que même si tu as le scan qui va peser 80 kilos à plat, alors ne parlons pas des rotatifs qui pèsent une tonne, et qui sont pas, pour ce qu'on fait, nous, pas très utile parce qu'on n'a pas besoin de faire des reproductions de 10 mètres de haut. Hein. Mais un bon scan à plat qui fait dans les 40 à 60 kilos, il faut savoir l'utiliser. Quoi. Il y a très peu de gens qui savent le faire. Aller chercher le point blanc, le point noir, dématricer, etc. Ça, c'est un métier de professionnel. Et ce que j'ai appris, c'est que je travaille avec plusieurs boîtes de scan. Tu as des photograveurs qui sont des photographeurs offset qui sont incapables de sortir un bon scan d'un cliché noir et blanc. J'ai des scanneristes en France qui sont des vrais professionnels, des gens qui aiment ce qu'ils font, quoi. C'est de toute beauté. Et alors ça, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on peut tirer d'un scan beaucoup mieux de ce qu'on pouvait faire. L'idée générique un peu de mon travail, c'est que j'utilise une chambre en bois, mais avec une optique, le summum, et un film extraordinaire. La chambre, c'est qu'un outil en bois, mais c'est juste faire passer l'image. Mais ce qui est important, c'est l'optique et le film. Et j'utilise des flashs électroniques, qui sont déclenchées par les dernières technologies. Donc j'ai toujours utilisé et l'ancien et le moderne. Et aujourd'hui, je fais la même chose. Par exemple, aujourd'hui, je tire, ouais, j'aime pas trop ce nom, tirer des photos sur platine. Et ça marche. C'est un fichier numérique qui est reproduit sur un film de la grandeur du tirage. Je veux dire, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il faut trouver un scanneriste extraordinaire qui fasse un scan, mais ça peut être de 500 mégas ou 1 giga, etc. Et ensuite, il va créer un film argentique, à partir de ce fichier électronique. Et ensuite, il fera un tirage sur un papier qui est un papier du Moyen-Âge, qui est un velin d'arche. Non, mais il y a des techniques, mais c'est de toute beauté, je pourrais te montrer.
Ce qui veut dire qu'au-delà de ton travail de photographe après, pour avoir ces archives-là et pour les scanner, tu fais encore appel à des mains, à de l'homme,
Ah
de l'humain.
oui, mais moi je refuse tous les travaux. Bon, là, tu as des Epson, parce que ça, c'est pour faire des. Mais le tirage machine, non, enfin, disons ce qu'ils font maintenant, les traceurs, ça, c'est de l'affiche, quoi, c'est pas de la photographie. Enfin, si, c'est. Bon, oui, c'est un peu de l'affiche, quoi. Parce que les gens achètent aujourd'hui des photos faites sur traceur Epson, mais il n'y a pas la main de l'homme. Ce qui est intéressant, comme dans un photographe. Photographe, dans ce cas-là, ils n'ont qu'à mettre des drones pour le faire. Hein. Donc, et un tireur, c'est. Moi, il n'y a pas un tirage qui ressemble à l'autre.
Quelles sont les utilisations possibles, toute utilisation possible d'archives? Il y a tes livres bientôt, bien sûr, exposition.
Ouais. Je me pose pas trop la question. Pour le moment, je me concentre sur les livres. Parce que les livres, ça donne quoi? En gros, le livre, c'est comme. Enfin, bon, d'abord, ça peut se vendre. Hein, on va dire ça comme ça. Les ressources tirées d'un livre sont très faibles. Hein, parce que ça coûte très cher. Donc les éditeurs qui font ça prennent des risques à chaque fois. C'est toujours un peu un risque. Ensuite, il y a l'exposition. On peut louer. Moi, je loue mes expositions. Et ensuite, il y a ce qui est vraiment rémunérateur, c'est la vente de tirage. Et pour la vente de tirage,
Faut être porté.
il faut être une marque. Il faut avoir un réseau. Il faut être une marque. Enfin, c'est très compliqué. J'ai fait un solo show l'année dernière à Paris Photo. Ce qui est exceptionnel hein, pour un documentariste, j'ai fait 45 000 euros de vente. Là-dessus, j'ai eu un chèque de 3 200 euros. Donc, ça te donne une idée. Et 45 000 euros de vente sur un solo show à Paris Photo, c'est-à-dire que l'emplacement, c'est 30 000 euros, tu as des frais, les encadrements, les machins, etc. Donc, si tu. Alors, tu as les grandes boîtes comme Agossian, comme ces gens-là, font 400, 500 000 euros, mais sur des images, bon, ça va être Ansel Adams, etc. Mais pour un jeune photographe comme moi, malgré mon grand âge, c'est satisfaisant, surtout avec du documentaire. Parce que je fais pas de la photo sur canapé, moi, je fais pas des photos qu'on met au-dessus de son canapé. Donc là,
Oui,
derrière, tu vois, tu as une photo du Rwanda.
bon, mais je la mettrai
Mais
pas
bon.
au-dessus de mon canapé non plus.
Voilà.
non, je la mettrai pas. Tu mets ta notoriété et ton expérience au service des jeunes photographes. Tu as été formateur à l'École nationale supérieure de photographie d'Arles. Tu as enseigné aussi au CFJ de l'École de journalisme de la rue du Louvre à Paris. Tu as créé une école. Bref, transmettre.
Ouais, je ferai plus ça maintenant, c'est fini. J'ai plus le temps maintenant. Je pensais que c'était important à un moment donné ouais, de transmettre. Et puis, je vais dire la vérité, c'était rémunérateur. D'un autre côté, ça permettait de souffler, ça permettait de faire le point sur son travail. Et puis, il y avait ce contact avec les autres, disons, de cet aller-retour avec d'autres regards. Qui était intéressant. Et puis faire partager une expérience. Ça a marché parce que les gens revenaient. Donc je pense que je n'étais pas tout à fait nul là-dedans. Mais ça a été énormément d'énergie donnée. C'est beaucoup de. Pas de frustration, mais. Je suis pas. Je suis un bon professeur. Je suis un bon professeur, mais ça me coûte terriblement. Parce que pour bien faire le métier de prof, c'est un métier qui pompe une énergie. Je partais le matin à 9 h, je rentrais le soir, j'étais épuisé, quoi. Ouais, j'ai fait ça pas mal de temps. J'ai fait ça surtout après l'histoire Guy Georges. Hein. ça m'avait tellement tabassé que je me suis dit, je ne pourrais plus faire de photos. Et donc, je m'étais mis dans l'enseignement en me disant, bah, je vais finir ma vie comme ça. Et alors, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que mon passé me permettait d'être prof. Et puis après, tu sais, on est dans un métier un peu showbiz où... Si tu n'as rien à montrer, au bout de 5 ans, tu disparais, quoi. Et donc, il y a un prof de chez prof qui fait plus, qui photographie plus, etc. C'est plus un bon prof, quoi. C'est un rond de cuir. C'est un type qui a plus la... Surtout dans un monde comme ça, qui est un monde viril, hein, je veux dire, photojournalisme, les gens disent « Ah bah ouais, bah maintenant, t'es prof, hein, tu fais plus rien. » Et ça, je l'ai entendu. Ouais. Je lui ai dit, ouais, t'as un vieux prof maintenant. Et ça, j'ai dit, bah non. Je suis un vieux con, mais je suis pas un vieux prof.
Et maintenant non plus.
Ah non, maintenant je prends plus les... Le seul truc, on m'a proposé de faire des workshops, des classes, machin. J'ai dit, non, j'en fais pas. Et le mec, il me dit, on fait ça dans une île en Grèce. J'ai dit, ah, bon, alors d'accord. C'est le seul truc. Il faut vraiment me présenter un truc vraiment très très bien payé et dans une destination incroyable pour que je le fasse. Mais sinon, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai plus le temps maintenant. J'ai plus le temps de passer du temps. Là, il faut que je produise, c'est tout. C'est ma seule solution, c'est de produire.
Un jeune qui t'écrit ou qui te voit dans une expo et qui dit « je voudrais être photographe, qu'est-ce que vous me conseillez ?»
Je lui dis que c'est une très bonne idée, mais alors il y a deux réponses, c'est dire laisse tomber, fais de la vidéo, mais c'est pas mieux, hein, parce que la vidéo va se casser la gueule.
Photographe, mais garder une curiosité.
Non. D'abord, je pense pas que quelqu'un qui m'envoie ça, déjà, c'est pas bon signe, parce que s'il veut être photographe. Bon, moi, je me produis sur Facebook, je fais des posts tous les jours, on peut me rencontrer, et le mieux, c'est qu'ils viennent me rencontrer, ils m'envoient pas un truc, ils viennent me parler. Et ça m'est déjà arrivé, des gens qui viennent me voir en me disant, voilà, je veux faire ça. Dans ce cas-là, je leur réponds. Là, je fais des signatures, là, je fais à la librairie de Paris, Gallimard, je fais la Chambre Claire, je fais des signatures en permanence. Je sors des bouquins, je suis une machine à livres. Donc, je sors des bouquins en permanence, je fais des expos en permanence. Donc, et j'ai jamais refusé le dialogue, au contraire. Mais envoyer un mail, non, il faut y aller. S'il veut être photographe, il faut qu'il aille, dans ce cas-là, il faut qu'il fasse rédacteur, s'il m'envoie un mail. Mais s'il est photographe, il faut qu'il vienne me voir.
On peut dire ça. De tous les prix que tu as eus en France, un peu partout, etc. Quels sont les plus importants ?
Non, je ne me suis jamais présenté, c'est pas moi qui me suis présenté.
Bref,
on m'a toujours présenté, j'aime pas les prix.
Oui, mais tu as eu le prix Robert Capa.
Special Award.
Voilà.
Attends, voilà, Special Award, récompense spéciale, prix Robert Capa. C'est Sipa qui me présentait.
Et de WordPress ?
C'est Sipa qui me présentait. Je n'ai jamais voulu. Non, j'ai pas honte, mais je touche pas à ça. Je touche pas. C'est pas parce que t'as photographié des gens en train de s'entretuer que tu vas avoir des prix. Là, ça, c'est un autre problème. Ça, je me présenterai jamais à des prix. L'année dernière, j'ai eu le prix du livre, là, avec Bobby Sands. C'est André Frère qui m'a présenté. Moi, je ne me présente à aucun prix. Bon. Qu'on se présente à des prix, actuellement les plasticiens le font pour avoir de l'argent, c'est une des sources aujourd'hui, je comprends très bien, hein, le mec qui photographie, je sais pas, des boutons de porte, je comprends qu'il ait besoin de 15 ou 20 000 euros pour continuer à photographier plus de portes et plus de boutons, mais ça me dérange pas. Mais moi, pour ce que je fais, je vois pas pourquoi j'irais avec mes voyous, mes filles, les trucs comme ça, demander de l'argent, on va me dire, mais attends, tu te fous de la gueule de qui, gars?
Qu'est-ce que pour toi ton appareil photo, c'est quoi ? C'est ta main, c'est un outil, c'est quoi ?
Je fais même plus attention. C'est-à-dire, j'ai tellement, je peux le prendre, c'est vraiment, je pense que c'est comme un instrument de musique, quoi. C'est-à-dire, je sais exactement, si tu veux. Quand je donnais des cours, je donnais souvent la comparaison avec l'empattement d'une voiture. Quand tu te gares ou quand tu te faufiles, tu sais exactement le gabarit de ta voiture. Bah bon, normalement. Hein. Et je disais, d'abord, n'utilisez qu'une optique. Hein, pas de zoom et une seule optique. C'est tout. Un sujet, ça se fait avec une optique. Parce que vous connaissez l'empêtement par cœur. C'est-à-dire, vous savez, quand vous regardez votre sujet, là, je peux te dire au 35 ou 28 comment est la photo. Hein, je sais exactement. Hein. Alors, dans ce cas-là, avec ton optique, c'est toi qui bouges, tu vois, pour avoir ce que tu veux. Et ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Il y a un photographe là, qui m'écrit de Haut-Karabakh et qui me dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je lui dis, t'as quoi comme optique? Il me dit, j'ai le zoom. Je lui dis, bah, tu arrêtes. Tu fais plus qu'une seule optique. Tu utilises le 28 ou le 35, tu mets un scotch. Et après, j'essaie de lui donner des conseils. Et je regarde ses photos, elles sont dans l'IB. Des fois, les trucs, ça... On dirait qu'il y a plusieurs photographes, quoi. Et là-dessus, ma chambre, elle a une optique. Mon Leica, il y a une optique. Mon Hasselblad, il y a une optique. J'en ai pas une numérique, parce que etc., il y a une seule optique.
Oui, mais là, tu parles d'argentique, justement. Pourquoi tu as choisi l'argentique, encore une fois? Par la profondeur, par le grain?
Non, mais je fais des photos,
grain,
je fais des photos en numérique aussi.
Oui, mais là, tu
l'argentique,
beaucoup, voilà. Beaucoup de travail à la chambre.
Parce que c'est la qualité, ça n'a rien à voir. Photo numérique, c'est du jeu vidéo, quoi. C'est Warcraft, c'est pas beau. Je sais pas, il n'y a pas... Les couleurs... Le RVB, c'est pas beau, quoi. Je veux dire, même le CMJN, par rapport... On est au climax de la chimie argentique. Quand tu prends un film, là, il y a... Kodak, ils viennent de sortir un Ektachrome 100G, là, qui est sublime, de toute beauté. Alors là, tu peux t'accrocher avant, avec un film numérique, avant d'avoir le déroulé des couleurs et les choses comme ça, c'est impossible. C'est impossible.
Comment est-ce que tu choisis l'appareil que tu vas utiliser, Leica, la chambre? C'est le sujet ou c'est toi avant? C'est la décision du récit que tu veux faire?
Qu'est-ce que je veux dire? Ça dépend ce que je veux dire. Est-ce que je veux du mouvement? Est-ce que je veux donner de l'énergie? Est-ce que je veux poser des choses ou pas? Par exemple, à Corbeil-Essonne, là, je fais de la chambre en noir et blanc au flash ring parce que je veux faire comme des photos à la Ouija et comme une fresque, un peu un bas-relief avec des photos noires. Et c'est un peu ça qui me motive, c'est que, tu sais, j'ai regardé Adieu ma jolie avec Humphrey Bogart, etc. J'essaie de m'imprégner d'une ambiance par la lecture, par les films, et je me dis, tiens, je vais essayer de mettre cette couleur, bah, du moins cette tonalité, cette dynamique dans mes images. Et dans ce cas-là, je choisis l'appareil photo qui va avec. Bah, je peux me tromper, hein, parfois je me suis trompé, hein, c'est pas d'en haut. Par exemple, je vais faire un truc sur Marseille, j'utiliserai à la fois la chambre et le 24-36. Je mélangerai les deux.
Ce qui veut dire, quand tu travailles, entendons-nous bien, quand tu travailles à la chambre, encore une fois, il faut le dire, ou les cas argentiques, c'est que il faut que tu aies une réflexion profonde sur la photo que tu veux faire, parce que tu vas faire un ou deux shoots, pas plus, et tu ne vas pas savoir quelle photo tu as faite encore. Il faudra la développer pour savoir.
T'as toujours ce mystère. Je me trompe pas. Non, je sais. Non, je peux avoir des accidents de laboratoire, ça arrive. Ça arrive avec l'argentique, mais je sais la photo que j'ai faite, je sais.
T'apportes un soin très particulier forcément au tirage.
C'est pas moi qui le fais. J'ai les bons tireurs. Je sais exactement. Là, je travaille avec un tireur depuis 2-3 ans. Je sais, il connaît mon travail par cœur. Il connaît tout mon travail, etc. Il sait exactement les tirages que je veux.
On parlait de ton rapport au sujet que tu photographies, mais tu as un rapport aussi au tireur, on l'a entendu, au scanner, aux gens de laboratoire.
C'est un ami, oui, bien sûr. Alors, tu vois, je fais souvent, par exemple, quand, là, j'ai fait Bobby Sands, quand il y avait la remise du prix, la PHP, je leur ai demandé de monter sur scène en disant, voilà, on a fait un livre, mais il y a le DA, Loïc Vincent, et il y a le photograveur, enfin le scanneriste Jean-Pascal Lowe, ils doivent venir avec moi. Ils ne sont pas montés. Il dit, voilà, mais un livre, c'est une équipe. Et je lui dis, moi, je suis preneur de vue, ouais. Scanneriste, directeur artistique. Ouais. Et à chaque fois, je le dis. En plus, je dirais, c'est de l'hypocrisie, parce qu'en mettant les autres en avant, c'est moi que je valorise, si tu veux. Parce que justement, je mets les autres en avant. Mais je pense vraiment ça. Je pense que aujourd'hui, c'est un travail d'équipe pour faire un livre, pour monter un sujet aussi. J'oublie jamais les gens avec qui je travaille. Ça, c'est indispensable. ou par égoïsme, hein, c'est parce que j'ai besoin d'eux. Hein, et puis, on est dans. Et je suis toujours étonné qu'ils refusent. Alors peut-être qu'ils se protègent aussi en refusant le star system, parce que ça bouffe. On peut vite prendre la grosse tête, si tu veux, le truc. Moi, je suis sollicité en permanence. La preuve, toi, tu me fais une interview. J'ai tous les jours, on me sollicite. Je suis content d'avoir passé un cap où, à un moment donné, je pensais que c'était important. Maintenant, pour moi, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que je sais vraiment que ce qui est dit là, ce qui servira, le lendemain, ça sera oublié. Si tu veux, on est dans tel monde aujourd'hui de gens qui parlent, qui causent, etc., que ça n'a plus d'importance quelque part. Ça peut en avoir pour certaines personnes. Si tu as envie de travailler avec moi, tu vas aller voir le blog. Si tu veux, tu vas dire, ah tiens, il est bête, ou tiens, c'est intéressant ce qu'il fait, etc. Mais pour la masse totale des gens, alors tu peux évidemment te faire des ennemis, tu peux te faire des amis, mais ce n'est pas tellement important, parce que ce qui est important, c'est McLuhan qui le disait, c'est d'être connu pendant au moins 15 minutes. Et à partir du moment où tu es à la radio, où tu parles devant l'écran, la télé, etc., les gens ne t'écoutent pas, ils te regardent. Là, tu es en train, ça fait depuis 3-4 heures qu'on parle. Je vais te dire un truc, la capacité, c'est 1 minute 30. Hein. Donc, ils vont ouvrir le poste, ils vont écouter 1 minute, et puis après, ils diront, ouais, Morvan, il a fait un gros truc, etc.
Mais Yann, moi, je travaillais en radio. Donc, est-ce que tu te rends compte que quand toi, tu étais à Beyrouth et que tu vendais tes images, par exemple, prenons Beyrouth, moi, je faisais un flash dans un journal pour le 19h, je faisais 1 minute. Je mettais tout parce qu'il fallait que j'informe quand même, fallait que je fasse dire. Mais avant moi, il y avait un bouchon sur le périph, et après moi, c'était le résultat du tiercé. Je pense que la moitié des mecs attendaient le miercé, et ils s'en foutaient complètement. Et moi, je restais dans ma merde, dans mes trucs, dans mes explosions, et les autres étaient déjà partis ailleurs, les auditeurs. Et en plus, on ne les connaissait pas, les auditeurs. Donc c'est exceptionnel comment on peut se monter et se donner de l'importance.
Tout à fait. Donc une fois que tu as pigé ça, que tu es quand même vraiment qu'un grain de poussière, je veux dire, c'est pas très important, tu vois.
Toi, tu as toujours été à l'affût, néanmoins, malgré ce qu'on vient de dire, tu as toujours été à l'affût du nouveau.
Nouveau, j'essaye de me maintenir dans les nouvelles technologies. Oui, comme je te disais précédemment que l'inventeur de l'Internet, j'avais photographié en 93, si tu veux. Je me rappelle, il m'avait donné un pass, un HTTP, etc., pour communiquer avec les nouveaux. C'est une secte, hein, Internet, au départ, hein, le web. Et vraiment une petite secte. Et il m'avait donné, je n'ai jamais utilisé, puis je me suis rendu compte après que c'était vraiment important. Et c'est vrai que, j'ai du mal avec les réseaux sociaux actuellement. Tout le monde me dit, il faut être sur Instagram, mais je supporte pas Instagram parce que ils disent rien, quoi. C'est que un flot d'images ininterrompues, sans un. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'intérêt. Faut y être.
Est-ce qu'on peut dire que tu as une personnalité emportée ou fantasque, liée probablement, entre guillemets, à ce qu'on pourrait imaginer, à l'empreinte des milieux en marche que tu as fréquenté ou que tu continues de fréquenter?
Non, moi je suis pas du tout. Je suis atypique. Oui, je suis atypique. Pourquoi? Parce que j'ai des sujets atypiques, mais. Je vais avoir un grain de folie. Ma mère a été une starlette, mon père un ingénieur. Je pense que le cocktail doit être un peu détonnant. Mais oui, c'est ouais, je vais avoir un petit grain de folie, mais raisonnable, quoi. C'est-à-dire, je suis quelqu'un, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Non, je suis pas fantasque du tout. Non, je suis assez structuré.
Démonstratif.
Non, non, non. Après, il y a un jeu. Après, les gens, ils s'attendent à un personnage. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Hein, donc, je peux m'habiller.
En chef de gare.
Différent. Oui, en chef de gare. Et Fernandel, un peu. Je peux être en curé. Mais c'est le monde aussi. Hein, on est dans un monde de la représentation. On est dans un monde du spectacle. Et alors, soit... Alors, il y a tout un pan... disons, de radicaux qui disent, voilà, nous, on est comme ça, on est radicaux, etc. Mais moi, l'idéologie radicale, j'en m'en méfie, hein, parce que c'est les gens de pouvoir, ça. Alors, j'ai un ami à moi qui était un espion soviétique qui me disait une fois une chose, qui m'a dit, tu sais, nous, on recrute deux types d'individus. On a les hédonistes et on a les gens de pouvoir. Alors, les hédonistes, on leur donne des femmes et de l'argent. Et les autres, on leur donne du pouvoir. C'est comme ça qu'on les recrute. Il faut vite voir dans quelle catégorie tu es. Alors, donc on est dans un monde comme ça qui est bipolaire, hein, entre les gens qui veulent que le pouvoir. Alors le pouvoir, ça peut être à l'extrême gauche comme l'extrême droite. Ils veulent que le pouvoir. Mmh. C'est tout. Alors après, ils sont prêts, ils peuvent raconter n'importe quoi. Ben, c'est des écologistes, c'est des féministes, c'est des libéraux, c'est ce qu'on veut. Mais ils s'en fichent complètement hein, du bien-être de l'humanité. Ce qu'ils veulent, c'est tirer la couverture à eux et puis exercer leur pouvoir sur les gens autour d'eux. Et après, tu as des hédonistes, c'est-à-dire des gens qui aiment manger, qui aiment l'amour, qui aiment les grosses bagnoles, qui aiment les vacances, qui aiment tout ça, etc., etc. Alors, c'est compliqué de se situer entre les deux. Moi, je suis un peu à 50-50, quoi. Le pouvoir, je l'aime bien. Ce que j'aime, c'est pas le pouvoir. C'est pas exercer le pouvoir. Parce que c'est un boulot hein, d'exercer le pouvoir. Et puis, c'est à doubler science. C'est-à-dire, tu donnes autant que tu prends. Hein, donc. Mais c'est d'aller au bout. Si tu veux, je suis calculateur, c'est-à-dire que je suis un peu un joueur de billard à 3-4 bandes.
Et crocodile, on y revient. Hmm? Et crocodile aussi, on y
oui.
revient.
Oui, et c'est-à-dire que j'ai des stratégies que je mets en œuvre au quotidien pour obtenir des choses. Mais tu ne sais pas ce que je veux obtenir. C'est très, très compliqué. Moi, je sais ce que je veux obtenir, mais c'est parfois des stratégies à 3-4 bandes. Et tu ne vois pas. Alors, je peux endosser un personnage qui n'est pas vraiment... qui je suis. Je peux être un peu Père Joseph de Richelieu, tu sais. J'ai un côté jésuite, si tu veux.
Ben, on allait y venir, justement. Ouais. Tu peux aussi être, par expérience, tu peux aussi être diplomate. Tu vois du monde.
Je déteste le conflit.
Tu vois des collectionneurs, des ambassadeurs.
Ouais, vois, tous ces gens-là, je
tu
vois.
Il faut négocier. Faut...
Mercredi, je déjeune avec un collectionneur. J'ai des gens, etc. Je peux leur faire comprendre leur intérêt d'acheter des photos d'Yann Morvan, si tu veux. Et oui, diplomate, oui, parce que j'ai tellement pratiqué la guerre que je sais que c'est pas la solution. Donc j'essaye toujours de trouver un arrangement. Ce qui est pas toujours. Les gens veulent en découdre. Hein, ils aiment le combat parce que des frustrations font que. Et puis t'as la folie humaine hein, qui fait que ton arrière-grand-père il était bourré à la cocaïne et qu'il t'a donné des gènes de taré, quoi. Et que, en plus, faut pas oublier, tu vois, quand on parle de l'immigration, alors ça c'est formidable, tu vois. Hier, on était dimanche, j'ai scanné des photos que j'ai faites dans les gares parisiennes en 76. D'accord ? T'as pas d'immigrés. Dans les gares, t'as que des petits blancs. Mais quand tu regardes la gueule des petits blancs, eh ben, je vais te dire, ça fait peur. Et puis, on a oublié ça. C'est que quand on parle des Français de souche, mais quand tu vois la gueule des Français de souche, ben, des fois, t'as la trouille. Et moi, j'ai vécu tout petit avec des Français de souche. Et je veux dire, c'est pas jobard, hein. T'as pas envie. Hein. Alors, quand ils disent les sales noirs, les sales arabes, bon, ça me fait hurler de rire. Hein. Je veux dire, ils ont des fois plus de prestance et de tenue que les Français de souche que j'ai connus quand j'avais 10 ans, hein, qui étaient des tarés. Enfin, il y en a pas mal. Hein. Et qu'est-ce que c'est, ça ? C'est... Moi, je suis une famille. Du côté de ma mère, il y a eu 10 morts d'alcool, les Normands. Voilà, ils sont tous crevés d'alcool. Et je veux dire, ça laisse des séquelles. Moi, j'ai deux cousins qui sont débiles. C'est des débiles, autistes, etc., etc. Je veux dire, on est quand même dans un pays où l'alcool a fait des ravages. Je veux dire, on n'est pas au top niveau. Hein, les Français de souche ou, je ne sais pas, peut-être les Allemands, comment ils sont, je ne veux pas savoir. Mais à un moment donné, il faut quand même se réveiller. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi on parlait de ça. Tu me parlais de c'était quoi la question ?
Du caractère.
Bon, alors, il y a tout ça qui germe. Il y a ces germes, si tu veux, de petits-petits-fils d'alcooliques dégénérés, normands, du côté breton, non, c'était pas plutôt des tueurs. Mais tu as tout ça qui germe, si tu veux. Tu sais, tu as une espèce d'ADN un peu pourri, là, qui remonte. Alors, je le sais, ça, parce que je pense que j'ai appris sur moi-même.
Tempéré par l'expérience.
Mmh, oui, et le personnage, effectivement, résultant... C'est à la fois, disons, une souche de bons et de moins bons gènes, on va dire, on va appeler ça comme ça, et puis une expérience. Donc l'expérience, elle doit compenser les mauvais gènes, en se disant, il faut que j'aille vers les bons gènes. Mais qu'est-ce que c'est réellement ? Mais c'est intéressant, hein, c'est l'œuvre d'une vie. Hein. Et la photographie, pour moi, était vraiment quelque chose qui m'a calmé, parce que j'étais complètement introverti, et la photographie, ça me permettait d'aller voir les gens. Maintenant, j'ai plus ce problème. Ça m'a vraiment soigné. Hein. Ça a été mon psychothérapeute, c'est la photographie. Je suis d'un naturel paresseux. Je suis vraiment, vraiment un intellectuel. Moi, je pourrais rester toute la journée à lire des bouquins et tout, mais ce n'est pas une solution parce que je n'ai pas les débouchés. Et je ne crois pas être assez brillant pour pouvoir en sortir quelque chose. Je pourrais être, j'aurais pu être un bon prof d'histoire, un truc comme ça, etc. J'aurais pu être Samuel Papy, là, Paty. Et donc, comme je sais que je suis paresseux j'ai de la volonté. Ouais, je pense que j'ai de la volonté.
C'est, oui, c'est ça.
Cette volonté incroyable de me lever le matin et me dire, même maintenant, après à 66 ans, de me lever tous les matins et dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu y ailles, peur. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Vous pouvez pas imaginer comment j'ai eu peur à la guerre. Je veux dire, je suis extrêmement peureux, mais j'y allais plus que les autres, parce que je veux dire, putain, t'es un putain de peureux de merde, t'as pas de courage, t'es une grosse merde, t'es vraiment, ton père avait raison, t'es un bon à rien, vas-y. Et je ramenais les meilleures photos. Et tous ceux que j'ai vus, j'en ai vu arriver avec des gros bras, hein, des matadors, hein, qui disaient, nous, on est des... Comme ça, ben, les mecs, ils filaient doux, hein, ils restaient pas. Et moi, je leur disais, les gars, c'est là que ça se passe, hein, c'est pas dans les camps. Hein. Et c'est ça la différence, c'est la volonté. La volonté,
c'est la question que j'ai envie de te poser. C'est-à-dire que si on se pose la question de quel est ton moteur, est-ce que c'est pas l'acharnement, justement? La volonté, l'acharnement, le bout.
Je vais te dire un truc. Je me fixe un objectif et j'y arrive. C'est tout. Quoi que ça coûte. Ça peut faire des dégâts. Hein. Je me fixe un objectif et j'y arrive. J'ai pas peur des dommages collatéraux, malheureusement. J'en fais. En ce moment, j'en fais. Mais il faut que j'y arrive. J'ai un objectif, je peux pas... il faut que je réussisse. C'est pas des trucs méchants, hein, ce que je veux. Hein. Par exemple, j'ai pas envie d'en parler, mais j'ai des objectifs et je m'y tiens jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire que je suis capable de tout pour obtenir ce que je veux.
Merci.